Chapitre 5e. Madame de Lucheval, après être restée un moment muette et pensive comme son amie, dit à Valentine « Je comprends parfaitement que les divers incidents de cette première journée où tu voyais notre cousin Michel aient fait sur toi une vive impression. Tu le trouvais d'une rare beauté, son esprit était éminent, puisqu'il semblait exercer de l'influence sur l'un des hommes les plus considérables de ce temps-ci. Enfin, ce que tu savais de la délicate déférence de Michel pour sa vieille nourrice te prouvait qu'il avait un généreux cœur. Hélas, il n'en fallait pas tant, pauvre Valentine, pour t'intéresser profondément dans la triste situation où tu te trouvais. Enfin, Florence, si tu ne l'excuses pas, tu conçois du moins comment ce sentiment a pu naître dans mon cœur. Non seulement je le conçois, mais je l'excuse. Un brevet de chagrin, d'humiliation par ton mari, ta position était si cruelle. Comment n'aurais-tu pas cherché à t'en distraire, autant consoler ? Je n'ai pas besoin de te dire que toute la nuit, je pensais malgré moi à Michel. Le lendemain, dès que cela me fut possible, je courais à ma persienne. La journée était superbe. Michel la passa comme la veille, dans la galerie, couché sur son divan, fumant, rêvant, lisant et jouissant, comme il me l'a dit plus tard, du bonheur de se sentir vivre. Ce jour-là, je vis entrer chez lui un homme vêtu de noir et portant sous son bras un large portefeuille. Je ne sais pourquoi, et toujours grâce à ma lorgnette, je devinais quelque homme d'affaires. En effet, il tira de son portefeuille plusieurs papiers. Il se préparait à les lire à Michel, lorsque celui-ci les prit et les signa sans même les parcourir. Après quoi, l'homme d'affaires prit dans sa poche un paquet de billets de banque qu'il remit à ton cousin, en paraissant le prier de les compter, ce dont celui-ci se garda bien, témoignant ainsi sa confiance aveugle en cet homme. « De tout ceci, il ressort, dit Florence, que notre cher cousin est fort insouciant de ses affaires. Hélas, que trop, malheureusement pour lui. Est-ce que sa fortune ? Tu sauras tout. Prête-moi encore quelques moments d'attention. » Pendant cette journée, qui se passa comme l'autre dans une complète indolence, la nourrice de Michel lui apporta une lettre. Il la lut. « Ah, Florence, jamais je n'ai vu la compassion se peindre d'une manière plus touchante sur une figure humaine. » Ses yeux se remplirent de larmes, il ouvrit le meuble où il avait serré les billets de banque et en donna un à sa nourrice. Le premier mouvement de cette digne femme fut de sauter au cou de Michel. Tu ne peux t'imaginer avec quelle délicieuse émotion il parut recevoir ses caresses presque maternelles. « Bon et généreux cœur, » dit Florence, attendrie. Le soleil s'était couché depuis longtemps, lorsque je pus m'enfermer chez moi, reprit Valentine, et revenir à ma chère fenêtre. Je cherchais Michel des yeux lorsque je vis une femme jeune entrer dans la galerie et courir à lui. Ah, pauvre Valentine ! Je reçus au cœur un coup violent. C'était stupide, c'était fou, car je n'avais aucun droit sur Michel, mais cette impression fut involontaire. Aussitôt je quittai ma croisée, je me jetai dans un fauteuil, et cachant ma figure dans mes mains, je pleurai longtemps. Puis je tombai dans une douloureuse rêverie. Au bout de 2 heures, je crois, j'entendis soudain un prélude de piano et bientôt 2 voix d'un ravissant accord commencèrent à jouer le duo si passionné de Mathilde et d'Arnold de Guillaume Tell. C'était Michel. Oui, c'était lui. Et cette femme ? Il est impossible d'accentuer la manière dont Valentine prononça ces mots. « Et cette femme ?» Après un instant de pénible silence, elle reprit. « La nuit était calme, sonore. Ses 2 voix vibrantes, pleines de passion, semblaient s'élever vers le ciel comme un chant de bonheur et d'amour. Pendant quelque temps, j'écoutais malgré moi. Mais à la fin, cela me fit tant de mal que, sans avoir le courage de m'éloigner, je couvris mes oreilles de mes mains. Puis, rougissant de cette faiblesse ridicule et voulant chercher dans la douleur même je ne sais quel charme amer, j'écoutais de nouveau. Le chant avait cessé. Je me rapprochais de la persienne. Les fleurs du jardin embaumaient l'air. La fraîcheur de la nuit était délicieuse. Pas un souffle de vent n'agitait les arbres. Une lueur affaiblie, comme celle d'une lampe d'albâtre, perçait à travers la transparence des stores baissés de la galerie. Le plus grand silence régna pendant quelques instants. Puis j'entendis crier le sable des allées sous les pas de Michel et de cette femme. La nuit était assez claire, je les distinguais tous deux. Ils se promenaient lentement et se tenant tendrement enlacés. Je refermais brusquement ma fenêtre, mes forces étaient à bout. Je passai une nuit affreuse. Ah, Florence! Que de passions nouvelles, violentes, terribles, éveillées en deux jours! L'amour, le désir, la jalousie, la haine, le remords, oui, le remords. Car de ce moment, je sentis qu'une force irrésistible m'entraînait à ma perte, et que je succomberais dans la lutte. Tu connais l'énergie, l'ardeur de mon caractère. Cette énergie, cette ardeur, je l'ai portée dans ce malheureux amour. Que te dirais-je? Longtemps je résistais vaillamment, mais lorsque l'indigne et brutale conduite de mon mari m'eut exaspéré, je me crus dégagé de tout lien, et je m'abandonnai en aveugle à la passion dont j'étais dévoré. Au moins tu étais heureuse, Valentine, bien heureuse. Ce furent d'abord les joies du ciel. Quoique parfois flétrie, malgré moi, par le ressouvenir de cette femme, dont Michel s'était d'ailleurs depuis longtemps séparé. C'était une cantatrice célèbre, actuellement je crois en Italie. Je le trouvais tel que je l'avais rêvé, esprit à la fois remarquable et charmant, cœur excellent, délicatesse exquise, enjouement et bonheur inaltérable. Tendresse passionnée, grâce, égard, prévenance, il réunissait tout. Et cependant, cette liaison durait à peine depuis 2 mois, qu'en adorant toujours Michel, j'étais la plus malheureuse des créatures. Pauvre Valentine, comment cela? D'après ce que tu viens de me dire, Michel devait réunir toutes les qualités désirables pour te rendre heureuse. Oui, répondit Valentine en soupirant. Mais toutes ces qualités étaient chez lui paralysées par un vice incurable, par... Et Madame d'Infreville tressaillit et s'arrêta court. « Valentine, pourquoi t'interrompre ? » lui demanda Florence en la regardant avec surprise. « Pourquoi cette réticence ? Parle, je t'en conjure. N'as-tu pas en moi toute confiance ? Ne t'en ai-je pas donné une preuve par mes aveux ? Si, si, mais achève !» « Après tout, » reprit Madame d'Infreville, ensuite d'un moment d'hésitation, « ma réticence, tu vas la comprendre. Eh bien, tout ce qu'il y avait de bon, d'excellent, d'élevé, de tendre chez Michel, était gâté par une apathie incurable. « Mon défaut, » dit Madame de Luceval, « tu craignais de me dire cela ? Non, non, Florence, ton indolence à toi est charmante. » « Monsieur de Luceval n'est pas du tout de cet avis, » dit la jeune femme, souriant à demi. « Ton indolence n'a du moins ni pour ton mari ni surtout pour toi aucune fâcheuse conséquence, » reprit Valentine. « Ton indolence fait tes délices et personne n'en souffre. Mais elle a eu chez Michel des suites fatales. D'abord, il a laissé ses intérêts de fortune aller comme ils purent, ne voulant jamais prendre la peine de s'en occuper. » Un homme d'affaires infidèle, encouragé par cette incurie, non content de le voler indignement, l'a jeté dans des opérations fructueuses pour lui, ruineuses pour Michel, trop indolent pour vérifier ses comptes. Que te dirais-je? À cette heure, je ne sais s'il lui reste de quoi vivre de la manière la plus humble. Pauvre garçon, mon Dieu, que c'est triste! Mais comment ton influence n'a-t-elle pu vaincre cette funeste paresse? Mon influence! Reprit Valentine en souriant avec amertume. « Quelle influence peut-on prendre sur un caractère pareil ? Raisonnement, inquiétude, avertissement, prière, tout échoue devant cette inertie satisfaite et sereine. Car chez Michel, jamais un mot dur ou brusque. Oh non ! Il recule devant l'impatience ou la colère comme devant une fatigue. Toujours calme, souriant et tendre, il répond aux remontrances les plus sages, aux supplications les plus désolées. Par une plaisanterie ou par un baiser. C'est en se jouant ainsi de mes conseils, de mes prières, qu'il est arrivé à une position qui m'épouvante pour lui. Car ayant pu vivre jusqu'à présent dans cette incurie, dans cette oisiveté qu'il prise avant toute chose, une fois sa ruine accomplie, il sera incapable de trouver en lui assez de courage, assez d'énergie pour sortir d'une si funeste position. Tu as raison, Valentine. Cela est plus grave que je ne le pensais. Grave, oui, bien grave, reprit la jeune femme en tressaillant. « Car tu ne sais pas l'horrible idée qui m'obsède comme un spectre. Que veux-tu dire ?» Michel est un homme d'un esprit trop juste pour se faire une illusion sur l'avenir. Il sait bien que son dernier louis dépensé, il n'a rien à attendre de personne et encore moins de lui-même. À quoi pense-t-il donc alors ?
À quoi ?
Dit Valentine en frémissant. Puis ses lèvres tremblèrent et elle ajouta d'une voix altérée :
Il pense à se tuer.
Grand Dieu, il t'a dit ?
Non,
reprit Valentine avec un redoublement d'amertume et d'affliction. Non, il s'est bien gardé de me dire cela. Un tel aveu eût amené ce que l'on appelle une scène de ma part, des larmes, des désolations infinies. Non, non, il ne m'a pas avoué que par paresse il se tuerait, comme jusqu'ici il a vécu pour la paresse. Mais un jour il lui est échappé de me dire en riant, comme la chose la plus simple du monde, « Un remords, éternel paresseux !»« Valentine, cette idée est horrible !»« Et c'est pourtant, vois-tu, avec cette idée que je vis !» dit la malheureuse femme en fondant en larmes. « Et cette terreur qui plane sur toutes mes pensées, sur toutes mes actions, je suis obligée de la dissimuler devant lui, car s'il me voyait triste, préoccupé, sais-tu ce qu'il me dirait avec son tendre et gracieux sourire ?»« Ma pauvre Valentine, à quoi bon la tristesse ?» Ne sommes-nous pas jeunes et amoureux? Ne pensons qu'au bonheur. Je t'aime autant qu'il m'est possible d'aimer. Je t'aime comme je puis et comme je sais aimer. Accepte-moi tel que je suis. Sinon, si involontairement je t'ai chagriné, si je ne te plais plus, laisse-moi, cherche mieux et restons amis. À mon sens, l'amour ne doit être que joie, félicité, tendresse et repos. Ce doit être un beau lac, toujours frais et calme, où se reflètent les plus riantes félicités de la vie. Pourquoi l'assombrir, le troubler par des inquiétudes inutiles? Ne peut-on s'aimer tranquillement? Va, mon ange, jouissons en paix de notre jeunesse. Celui qui a vécu en sa vie 10 jours d'un bonheur complet, radieux, doit être content et mourir en disant « Merci Dieu ». Nous avons vécu 100 et plus de ces jours-là, ma Valentine, et nous en vivrons 1000 et davantage, s'il te plaît, car je t'adore. Ne suis-je pas trop paresseux pour être inconstant? Et puis, pourrais-je, sans effroi, songer à la peine de chercher de nouvelles amours? Oui, ajouta Valentine, avec une animation douloureuse et croissante, pendant que Florence semblait profondément pensive. Oui, voilà comment Michel envisage l'amour. Ses alternatives de joie et de larmes, ses vagues angoisses, ces jalousies folles mais terribles qui, incriminant le passé, l'avenir même, bouleversent et martyrisent le cœur, oui, ces violences, ces tumultes inséparables de la passion font sourire Michel. Ce serait pour lui une fatigue de la ressentir. Moi seul, en suis déchiré. Son indolence en amour me navre, me révolte, me fait bondir, mais je me contiens, mais je souffre. Parce que malgré moi, je l'adore tel qu'il est. Et ce n'est pas tout. Michel ne semble pas se douter des remords, des transes, des effrois qui m'assiègent chaque jour. Car pour passer des heures, quelquefois même des journées avec lui, il me faut entasser mensonge sur mensonge, me mettre presque à la discrétion de mes gens, trouver toujours de nouveaux prétextes à mes fréquentes sorties, vivre dans une agitation continuelle. Et quand je rentre, ah Florence, quand je rentre, si tu savais quel poids affreux j'ai sur le cœur, lorsqu'après une longue absence, je mets la main au marteau de ma porte, en me disant « Tout est peut-être découvert. » Et quand je me retrouve face à face de mon mari, autre martyr, affronter son regard, tâcher de lire sur ses traits s'il a le moindre soupçon, trembler, mais trembler en dedans, à ses questions les plus insignifiantes, paraître tranquille, indifférente. Quand je suis bourrelé d'angoisse, et puis, dernière douleur, dernière bassesse, avoir l'air souriant, empressé même, avec mon mari que j'aborde, oui. Il faut bien que je le flatte, puisque j'ai peur de lui, puisque j'espère écarter ses soupçons en me composant une physionomie avenante et gaie. Comprends-tu, Florence? Quelquefois il faut que je sois gaie, comprends-tu, gaie, quand j'ai la mort dans l'âme. Tiens, Florence, c'est l'enfer qu'une vie pareille. Elle brûle, elle use, elle tue, et pourtant il me serait impossible d'y renoncer.
Ah, Valentine, s'écria Madame de Luceval en se jetant dans les bras de son amie. Merci à toi, ma tendre amie, merci, tu m'as sauvée.
Madame d'Infreville, aussi stupéfaite du mouvement que des paroles de Florence, reçut son embrassement avec autant d'émotion que de surprise.